Chères auditrices et chers auditeurs d'Agora Côte d'Azur, voici arrivé votre moment italo-français ou franco-italien. Nous allons aujourd'hui vous parler cinéma avec l'une des actrices mythiques de l'Italie des années 50 à 80. Il s'agit de Gina Lollobrigida. Alors évidemment, on ne peut pas limiter Gina Lollobrigida à une chute de rein. Marcel, tu vas aborder les moments importants de sa vie.
Sur Agora Côte d'Azur.
Agora Côte d'Azur.
Transméditerranéenne, Italie.
Ben, Gina Lollobrigida, on va parler d'abord de sa naissance dans un milieu ouvrier très modeste. Le 4 juillet 1927. Sa famille vit à Subiaco, une petite commune de la métropole roumaine. Jeune fille, elle est étudiante à l'Académie des Beaux-Arts. Retenez, c'était un élément important. Mais le cinéma lui fait de l'œil. Et elle démarre en 1947 dans de petits rôles. Luigina, de son vrai prénom, ne sait pas encore qu'elle va côtoyer les plus grands acteurs masculins, de Frank Sinatra à Sean Connery ou un Humphrey Bogart. Eh oui, pour l'instant, son charme lui permet de participer à de nombreux concours de beauté. En 1947, elle termine deuxième au concours de Miss Rome et troisième à celui de Miss Italie. C'est une période de sa vie où on loue plus sa plastique que son talent.
Allora, buongiorno a tutti, sono Barbara e allora per tradurre, ma c'è bisogno di tradurre quello che ha detto Marcella e Tino, sappiamo, quando diciamo Gina Lollobrigida abbiamo già detto tutto, eh? Allora, questa bravissima attrice che è disparsa poco tempo fa, è una donna che è nata da un ambiente operaio, quindi molto modesto, nel 1927, vicino a Roma. E già da giovane, innanzitutto ha cominciato la sua storia iscrivendosi all'Accademia delle Belle Arti, come dice Marcella, è un elemento importante da tenere in considerazione. Ma diciamo che il cinema gli ha fatto l'occhiolino e così ha cominciato nel 1947 già a recitare con dei piccoli ruoli. Il suo vero nome, Luigina, non sa ancora che arriverà a affiancare dei grandi attori come Frank Sinatra, Sean Connery e Humphrey Bogart. Per il momento il suo charme incredibile le permette di partecipare a diversi concorsi di bellezza, ovviamente, diciamo, veramente una bellezza sta donna. E nel 47 quindi termina seconda al concorso di Miss Roma e terza a quello di Miss Italia, Quindi è un periodo, diciamo, della sua vita che più che i ruoli cinematografici sono tutte le sue qualità fisiche, diciamo, che sono messe in valore. E, vorrei aggiungere appunto, il primo talento della Lollo, come la chiamiamo noi in Italia, la Lollo, non fu come si poteva pensare la bellezza, anche se la bellezza effettivamente c'era, ma il disegno. Quando la famiglia di Gina Lollobrigida, che attraversava dei problemi finanziari molto seri, si trasferì a Roma, lei per aiutare cominciò a vendere delle caricature disegnate a mano con il carboncino. Non è quindi un caso, come dicevi tu, Marcella, che si iscrive all'Accademia delle Belle Arti a Roma, perché e poi ha posato anche in quell'epoca anche per alcuni fotoromanzi utilizzando Diana Loris come nome d'arte.
Donc tu rajoutes des informations importantes ou amusantes tous les deux. Son premier talent n'a pas été la beauté, mais le dessin. Quand la famille de Jean, qui traverse des problèmes financiers, s'installe à Rome, la jeune fille, pour aider sa famille, vend des caricatures dessinées au fusain. Et ce n'est pas un hasard. Si inscrite à l'Académie des Beaux-Arts de Rome, elle a posé aussi pour quelques romans photos, mais sous le nom d'artiste Diana Loris.
Bien, nous avons compris qu'elle avait plusieurs cordes à son arc, mais néanmoins, pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est son parcours cinéma.
Le tournant va avoir lieu en 1952. Gina Lollobrigida est enfin reconnue pour son habileté à jouer la comédie. Les Cahiers du cinéma écrivent en 1953 « Ceux qui ont vu La marchande d'amour » de Mario Soldati, adapté de la provinciale d'Alberto Moravia savent maintenant que Gina ne dispose pas seulement d'une gorge, d'un nombril et d'une très belle chute de rein, mais aussi d'un très sûr et très sensible talent de comédienne. C'est une phrase qui est une citation des cahiers du cinéma.
Sì, allora, come chiede Tino, che dice di un po' di presentare il suo percorso cinematografico, allora di Vercella appunto dice che proprio è nel 1952 che comincia a farsi notare, no? È riconosciuta per la sua abilità di recitazione, infatti. E dice il cahier du cinéma, quando scrivono nel 1953, e quelli che hanno visto il film come La Marchand d'Amour di Mario Soldati, adattato della la provinciale di Alberto Moravia, sanno adesso che Gina non è soltanto una persona che si presenta con una bellezza, come dice la chute de rein, è carino in francese, si chiama, per avere un bel sedere, si direbbe in italiano, ma anche di un sensibile talento e un talento sicuro di veramente di attrice. E appunto a questo proposito vorrei aggiungere che nel 50 Gina volò da solo verso Hollywood, già nel 1950, accettando l'invito di un miliardario che conoscete chi sia, è Howard Hughes, produttore e scopritore di dive. Ma quando Gina scoprì che stava per essere chiusa in una gabbia dorata, la donna intelligente che era, tornò precipitatamente a Roma e purtroppo il contratto in esclusività che aveva già firmato con Hughes la impedì fino al 1959 di lavorare negli Stati Uniti, ma non in produzioni statunitensi girate in Europa, come poi in effetti avvenne.
Tu nous expliques, en 1950, Gina s'envole seule vers Hollywood sur l'invitation du milliardaire Howard Hughes, qui est aussi producteur et découvreur de divas. Mais elle découvre que c'est pour être enfermée dans une cage dorée et elle retourne à Rome. Esprit indépendant.
Ah, si.
Le contrat d'exclusivité qu'elle avait déjà signé l'a lié jusqu'en 1959 aux USA, mais pas du tout pour des productions hors États-Unis. Donc elle retourne en Europe, où elle va continuer sa carrière d'actrice.
Vous pourriez nous donner quelques films les plus marquants de sa carrière ?
Alors, c'est en France qu'elle trouve ses premiers grands rôles. En 1952, Fanfan la tulipe. C'est un pétillant film de cap et d'épée, réalisé par Christian Jacques, avec Gérard Philippe à ses côtés. Avec le même Gérard Philippe, elle est la caissière du café que l'imagination de ce dernier transforme en créature de harem dans Belle de nuit de René Clair. C'est un bijou. Elle rencontre ensuite le succès dans Plus fort que le diable de John Huston, puis dans Pain, amour et fantaisie de Luigi Comencini. Elle gagne le ruban d'argent de la meilleure actrice principale. Viendront le magnifique Notre-Dame de Paris, adaptation du roman de Victor Hugo, où en 56, elle joue une merveilleuse Esmeralda dans la belle adaptation. À ses côtés, Anthony Quinn, qui joue un émouvant Quasimodo. Le film est réalisé par Jean Delannoy. Allez, quelques détails. Les scénaristes sont Jean Orange et Jacques Prévert. Belle équipe.
Altro che. Allora, sì, in effetti, la Gina Lollobrigida comincia, come chiede Tino, di dare qualche film più noti della sua carriera. Ritroviamo nel 52, Fanfan la Tulipe, realizzato da Christian Jacques, con Gérard Philippe a suo fianco. Sempre con Gérard Philippe è la cassiera di un caffè che l'immaginazione di quest'ultimo la trasforma in una creatura da harem, nella Bella di notte di René Clair. Poi, chiaramente, il gran successo di più forte che il diavolo, Plus fort che lo diavolo di John Huston, in Pane, amore, fantasia di Luigi Comencini, vince persino il nastro d'argento della migliore attrice principale. E poi abbiamo Notre Dame de Paris, nel 1956, dove recita una meravigliosissima Esmeralda nell'adattazione del romanzo di Victor Hugo.
meraviglioso, sì, insomma, un'equipe magnifica. C'è Anthony Quinn che è nel ruolo di Quasimodo, realizzato par Jean Delannoy, con degli scenaristi come Jean Orange e Jacques Prévert, donc una meraviglia. Ouais.
Bien, allez, mesdames, encore un petit effort, vous allez nous donner quelques éléments importants concernant sa filmographie.
T'es gourmand, hein?
Oui, mais, bon, il faut demander le plus, comme disait. Soyons réalistes, demandons le possible, comme disait Che Guevara.
Ouais, t'as raison. Voilà. Et nous avons encore des choses à raconter. Une anecdote pour commencer. Elle refuse de tourner le troisième épisode de la trilogie commencée avec Comencini. Donc il y avait Pain, Amour et Fantaisie, Pain, Amour, Ainsi soit-il, de Dino Risi en 1955. Et c'est Sophia Loren qui la remplace. Et elle devient ainsi sa rivale tout au long de leur carrière respective. Bon, deux divas, même génération, deux beautés différentes, mais qui peuvent se faire de l'ombre l'une à l'autre.
Oui, je ne sais pas qui c'est qui a quand même nourri cette... parce que c'est... Voilà, on est dans un environnement assez spécial quand même.
Oui,
hein, voilà, parce qu'elle était assez intelligente, je pense... pour comprendre que Sophia Loren, c'était une autre. Ouais, voilà.
Il faut faire la part entre la com et la véritable rivalité.
Exactement. Tout à fait. Je vais citer deux films de sa carrière américaine. Donc, en 1954, Plus fort que le diable, on l'a déjà cité, qui est un thriller déjanté avec Humphrey Bogart. Et en 1956, une sorte de Jules et Jim avec Burt Lancaster et Tony Curtis dans Le monde du cirque, Trapèze, un film de Carol Reed.
Oui, j'étais un peu, perché questo non l'ho visto, non lo conosco assolutamente. E quindi grazie Marcella per queste precisioni. E dice, allora, comincia Marcella dicendo un aneddoto che rifiuta di fare il terzo episodio di una trilogia cominciata con Comencini. Pane, amore, così sia, di Dino Risi nel 55. E quindi lì c'è Sophia Loren che la rimpiazza. E come dice Marcella, giustamente, diventando, ma secondo quello che dicono i giornalisti e i media, no? Diventando la sua rivale tutto per tutta la durata della sua carriera, delle loro carriere rispettive. E per quanto riguarda invece i film della sua carriera americana, nel 54 avevamo già citato Più forte che lo diavolo di John Huston, nel 56 Trapèze di Carol Reed, che deve essere senz'altro bellissimo, che però non conosco, con Burt Lancaster e Tony Curtis. Nel mondo del circo, Trapezio. Vorrei aggiungere anche che Gina Lollobrigida ha recitato anche in televisione, ad esempio nel sceneggiato televisivo, nel noto sceneggiato televisivo Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini, dove interpreta una splendida, meravigliosa, unica fata turchina. Era bellissima.
Elle a joué dans des réalisations à la télévision et tu donnes l'exemple. Alors, j'ai vu le film qui est vraiment elle est magnifique. Donc, dans un scénario pour la télévision, Les aventures de Pinocchio de Luigi Comencini, où elle interprète la fée bleue.
Oui. Magnifique.
Ah oui.
Veramente magnifique. Allora, per dire che a Gina Lollobrigida, come dicevi tu, Tino, elle a plusieurs cordes à son arc. Et en effet, là, on va faire une petite pause pour une chanson justement chantée par Gina Lollobrigida qui si chiama La Spagnola.
Thank you.
Bien, vous êtes à nouveau avec Agora Côte d'Azur. Chers auditeurs et chères auditrices, nous reprenons notre petite information sur Gina Lollobrigida. Alors maintenant, nous avons fait le sérieux, sa filmographie. Allez, on va faire un peu les ficanas. Et sa vie personnelle dans tout ça?
Elle épouse en 1949 un médecin, Miko Skofik. Après leur mariage, il devient son agent. Elle donnera naissance à un garçon, Milko Skofik Jr., le 28 juillet 1957. Puis, après plus de 20 ans de mariage, elle décide de divorcer de son époux. Elle commence à ralentir le rythme des tournages pour se tourner vers sa passion première. « J'ai toujours préféré la sculpture. Je me suis donnée au cinéma et je ne le regrette pas. Mais quand le cinéma a changé, j'ai décidé de retrouver ma passion. » Elle l'a confiée à l'occasion de l'inauguration à Paris de sa première exposition.
La vita, come chiede Tino, la vita personale della Lollo è stata abbastanza movimentata. Allora, nel 49 ha sposato un medico, Milko Skofik, che poi dopo il matrimonio diventerà anche il suo agente. Nascerà Milko Skofik Junior nel 57, ma dopo 20 anni di matrimonio deciderà di divorziare, quindi questo è nel 71. Comincia a rallentare il ritmo dei film per girarsi di più verso la sua prima passione. Lei dice, cita, no? La Lollobrigida, ho sempre preferito la scultura, mi sono data al cinema e non lo rimpiango affatto, ma quando il cinema ha cambiato io ho deciso di ritrovare la mia passione e quindi la scultura e la fotografia d'altra parte. Ma per quanto riguarda la sua vita sentimentale vorrei aggiungere che all'età di 79 anni ha sposato Javier Rigau, che era un imprenditore spagnolo di 45 anni. Dopo aver tenuto nascosta questa relazione che andava avanti dagli anni 70, quindi era una lunga storia. Molte contraddizioni planano su queste nozze e la Lollobrigida stessa ha parlato di nozza truffa. La vicenda è finita in tribunale e il matrimonio è stato annullato.
Sa vie sentimentale, je citerai un peu plus tard une déclaration qu'elle avait faite. Oui, mouvementée, pas forcément toujours très joyeuse. Et contrairement à ses succès au cinéma, a été mouvementée, tu le dis bien. Au seuil de ses 79 ans, elle a épousé Javier Rigau, un entrepreneur espagnol de 45 ans, après avoir tenu cette relation secrète depuis ses 70 ans. Mais beaucoup de questions tournaient autour de cette union, certains parlant carrément d'escroquerie. Pour finir, le tribunal a tranché et le mariage a été annulé.
Oui, c'est juste pour te dire, c'est pas que la relation secrète depuis ses 70 ans, c'était depuis les années 70 que ça continuait.
D'accord.
Donc ça faisait longtemps qu'ils étaient amants.
D'accord, voilà. J'ai mal compris.
Oui, non, mais c'est...
D'accord, voilà. Très bien. Ah oui.
C'était une longue histoire.
Longue histoire.
Ouais. Fini en tribunal.
Oui, pas trop romantique, la fin.
Bien, écoutez, mesdames, pour cet immense fantasme, pour la plupart des hommes, entre les années 50 et 70, vous avez bien quelques révélations encore à nous faire.
Ah oui. Des révélations, peut-être pas. Elle a eu bien sûr des aventures. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'elle a exprimé sur sa vie en tant que femme. En 2013, dans une interview accordée à l'Express Styles, Gina Lollobrigida a révélé « L'amour a été le grand absent de ma vie ». Et elle ajoute « La plupart des hommes n'apprécient pas les femmes trop puissantes, ni trop célèbres. Ils en sont jaloux. » Une phrase, je trouve, qui exprime une situation qui est encore bien d'actualité. Mais revenons à sa carrière. Elle lui vaudra plusieurs récompenses à travers le monde. Son rôle dans Vénus impériale, de nouveau de Jean Delannoy, lui vaut un prix David di Donatello, ainsi qu'un ruban d'argent. Elle recevra également un Golden Globe. la star possède aussi son étoile sur le célèbre Walk of Fame de Hollywood à Los Angeles.
Eh sì. Allora, Tino vuole sapere sempre di più, sempre di più. È interessante quello che dice Marcella, perché allora nel 2013 un'intervista che la Gigi Lollobrigida ha accordato all'Express Styles dice testualmente: l'amore è stato il grande assente della mia vita. Ed ha aggiunto: la maggior parte degli uomini non apprezzano le donne troppo potenti né troppo celebri perché sono gelosi. È una frase che esprime, come dice Marcello giustamente, una situazione ben d'attualità. E stai attento che vedo la testa di Tino che vorrebbe dire: ma no, il microfono l'ho io adesso. Per quanto riguarda la sua carriera, ha avuto diverse ricompense a livello internazionale, con il suo ruolo di Venere imperiale di Jean Delannoy, gli è valso il premio Davide Donatello e anche il Nastro d'Argento. Ha ricevuto il Golden Globe possiede la sua stella sulla celebre Walk of Fame di Hollywood a Los Angeles, quindi veramente dei bellissimi riconoscimenti. E scusate finché ho il microfono, ne approfitto per aggiungere che il suo fascino è dovuto in gran parte alla sua determinazione, in effetti, alla sua indipendenza e alla sua passione dell'arte. Al diradarsi della carriera cinematografica, Gina ha intrapreso una carriera parallela di reporter, arrivando ad intervistare delle persone come Fidel Castro, per esempio, e a dedicarsi quindi alla fotografia e alla scultura. Direi che insomma una donna accompli
e a multiple facette.
Oui.
La fascination particulière liée à la Lollobrigida est due à sa détermination et à son esprit d'indépendance. Ben ça, on l'a vu avec plusieurs exemples. Et aussi à sa passion pour les arts. Oui, on l'a évoqué. À côté de sa carrière au cinéma, Jean a entrepris une carrière parallèle de reporter, arrivant par exemple à obtenir un entretien avec Fidel Castro. Et elle s'est également consacrée, tu l'as dit, à la photographie, à la sculpture. Artiste accomplie.
Bien, c'est pas mal. Je reconnais que vous faites des efforts, mais est-ce que vous avez encore quelques aspects de son talent à nous faire découvrir ?
Non. On a fait quand même bien le tour. Quelques informations. On l'a déjà dit qu'elle a reçu un prix David Di Donatello, mais pour l'ensemble de sa carrière, là. Et elle y a mis un terme à sa carrière d'actrice en 1973. Barbara nous a parlé de ses passions, la photographie et la sculpture, mais elle s'est également lancée dans la politique. Elle est apparue sur une liste du nom de la gauche aux européennes en 1990 et sur une liste communiste au sénatorial en 2022. Voilà, femme engagée, en plus de tout le reste. Et elle nous a quittés le 16 janvier 2023, à l'âge de 95 ans.
Mmh. Sì, allora sì, per terminare un po' questa immagine della Gina Lollobrigida, al di là di tutte della sua carriera magnifica, delle sue passioni, eccetera, come dice giustamente Marcella, si è ugualmente lanciata nella politica ed è apparsa sulla lista dell'Unione di Sinistra alle Europee del 1990 e su una lista comunista alle senatoriali del 22. Voilà, quindi veramente una vita piena, anche se però l'amore le mancava, come ha detto giustamente lei. Gina Lollobrigida è morta il 16 gennaio 2023, quindi all'età di 95 anni. Una vita bella, riempita bene. Prima della tua ricetta, Tino, possiamo far partire un'altra musica, sempre della sempre di Gina Lollobrigida, e questa volta canta in spagnolo, comunque è Bésame Mucho.
Bésame bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho.
Juste une petite précision. Quand Marcel et Barbara disent la Lola, c'est pas de la familiarité ou de la vulgarité. Il faut savoir, savoir qu'en italien, quand on dit la, c'est un grand, une grande forme de respect.
Oui, oui.
Juste maintenant la recette, puisqu'elle est d'origine romaine, je vais vous donner la recette des artichauts à la romaine. Alors, pour 6 personnes, les ingrédients, artichaut violet, bien sûr, 12 pièces, menthe fraîche, une botte, persil plat, une botte, vin blanc sec, 5 centilitres, gousse d'ail, une pièce, citron jaune, une pièce, sel fin, 2 pincées, poivre noir, une pincée, huile d'olive, 10 centilitres.
I carciofi alla romana, meraviglioso. Allora, Tino ci dice, per 6 persone... 12 carciofi viola, menta fresca, un mazzetto, lo stesso per il prezzemolo, vino bianco 5 centilitri, un spicco d'aglio, un limone giallo, del sale, del pepe, dell'olio d'oliva 10 centilitri circa. Vai Tino.
Prepare les artichauts en enlevant les feuilles les plus coriaces, puis la couche extérieure de la tige. Coupez le haut de l'artichaut, les pointes, et écartez légèrement les feuilles. Retirez le foin si besoin. Réservez les artichauts entiers dans l'eau citronnée.
Allora, sì, ci vuole un po' di tempo per la preparazione, ma poi ne vale la pena, senz'altro.
Sì.
Allora, bisogna togliere le foglie le più dure intorno, poi togliere la buccia, diciamo, del gambo. Poi tagliare le punte dei carciofi, delle foglie dei carciofi e leggermente aprirli, perché se c'è, in francese dire le foin, mi fa ridere, sono i pelini che ci sono, bisogna toglierli e poi dopo metterli in acqua con limone, perché non diventino neri.
Laver et essuyer et ciseler le persil, la menthe et l'ail, saler, Répartir ce mélange dans le cœur des artichauts. Garder des herbes fraîches pour le dressage. Les poser dans une cocotte ou une casserole à fond épais, pas trop large. Tête en bas, les uns à côté des autres, de manière à ce qu'ils se tiennent debout.
Ok, allora, lavare, tagliare e tagliare piccoli piccoli pezzettini il prezzemolo, la menta e l'aglio, salare e ripartire questo miscuglio nei cuori dei carciofi, porre tutti i carciofi in un tegame a fondo spesso e non troppo largo, con la testa in giù. Ogni carciofo ben stretti tra di loro in modo che si tengano dritti.
Verser l'huile d'olive à 0,5 cm d'auteur, puis le double de volume d'eau et de vin blanc. Saler, couvrir et laisser cuire à feu moyen pendant 20 minutes. Les artichauts doivent devenir tendres mais rester entiers.
Ah, oui, c'est ça. Alors, dopo, infatti, non è tanto difficile, però è delicata comunque come ricetta, perché bisogna allora poi mettere l'olio, 0,5 cm di olio all'altezza del tegame, poi il doppio di acqua e di vino bianco, salare e poi coprire e lasciare cuocere a fuoco medio circa una ventina di minuti. Come dice giustamente Tino, i carciofi devono diventare teneri, ma rimanere interi. Sì.
Écoutez les artichauts en gardant un peu de sauce de côté, salé et poivré, et ajouter les herbes fraîches. Servir chaud ou à température ambiante, comme entrée, ou en accompagnement de viande ou de poisson. Personnellement, je les préfère avec un denti pêché du matin.
Ah, ok, con il pesce, sì. Allora, dunque, dopo una ventina di minuti bisogna scolarli e salare e mettere pepe e aggiungere le erbe fresche e servire caldo o a temperatura ambiente e, come dice Tino, in accompagnamento, quello che preferisce lui è con il pesce, con
sì.
il dente.
Sì, sì.
Dentice, ma anche, si può mangiare anche con la carne
sì.
o anche da solo. Beh, comunque devono essere buonissime.
Da solo è bene.
È buono anche.
Tutto è buono nel carciofo.
Nel carciofo tutto è buono, come nel maiale. Ok, grazie mille a tutti e a una prossima puntata. Arrivederci.
A bientôt, au revoir.
Au revoir.